Alors, félicitations. Une œuvre, donc, vidéo qui est projetée coin McGill et Saint-Maurice pendant au moins une année. Alors, je vous remercie de l'avoir commenté. Bonne continuation.
Merci. Merci beaucoup.
Et de redonnez-moi le titre.
C'est « Projeterie Appel, une déambulation du regard ».
Quel titre inspirant. Merci encore.
C'est tout pour cette autre excursion dans le milieu art visuel. Retrouvons-nous samedi prochain midi. Je vous souhaite une agréable longue fin de semaine de l'Action de grâce, alors que la plupart des musées seront ouverts. Alors, ça sera bien l'occasion pour visiter la fabuleuse exposition Vice-Vertu, Désir Folie, trois siècles de chefs-d'œuvre flamands, qui se termine très bientôt le 20 octobre. Et ne manquez pas non plus les visites guidées en compagnie de notre invitée du jour, Alice Pouzet, jeudi et vendredi prochain, 17h et 18h30 au Royal Mount, dans le cadre de l'événement Ode à l'art. Portez-vous bien!
MPVE Montréal présente le grand gala de l'amour de fin d'année sur tapis rouge. Souper 5 services, soirée artistique, au programme concerts classiques, chants et danse, tango et défilé de mode avec Olfa Fashion. VIP sur demande, table de 10, le plein package. Les billets sont en promotion au prix de $125 le 26 octobre 2024 de 16h à 3h du matin au complexe La Providence situé au 6566 rue Jarry-Est, Saint-Léonard. De nombreux lots à gagner. Trois prix à tirer de meubles en gros. Premier prix, un set de salon. Deuxième prix, une télévision de 65 pouces. Troisième prix, un système de son. Méga meubles, un set de chambre. Trois prix à gagner. Trois télévisions de 55 pouces. Garcia VIP. Deux forfaits limousine, valables d'un an d'une durée de 6 heures de temps. Trois bourses d'études en sécurité avec ASQ, valables pour 6 mois. Un voyage pour deux, billets aller-retour avec Voyage Paloma. Et d'autres surprises. Informations 438-527-8282. Nous tenons à remercier les commanditaires officiels. Vision Max Service, cabinet Jean-Marie Hercule en immigration, Mode Révolution, Vision Citadelle de Montréal, le concessionnaire Gabriel Hyundai à Anjou, Boss Bencho, restaurant en Canasuc, Lénaire Saint-Louis Agence Immobilier, Sandy Isahat, Daniel Garage, Copernic Filosca Agence Immobilier et Agence de Placement Logos.
Deuxième génération d'immigrants, êtes-vous là? Où êtes-vous? Terre d'origine ou terre d'accueil? Edna Rencontre vous invite à chaque samedi de 21h à 22h à identifier avec ses invités les dualités conscientes ou inconscientes qui habitent la deuxième génération d'immigrants. C'est une rencontre de soi et des autres pour repousser nos limites, découvrir de nouveaux horizons et voir autrement. Rendez-vous chaque samedi à Radio Centre-Ville, 21h à 22h, car nous sommes nés pour triompher.
Vous êtes à Montréal-Nord, là où les saveurs du monde se rencontrent et se mélangent. Avez-vous déjà visité le marché Béda? Au 10 539 boulevard Bineuf, au centre commercial Forêt, le marché Béda. Là où la diversité et la fraîcheur se dégustent à chaque produit. Venez et profitez de nos produits. Le marché Béda, là où les saveurs du monde se rencontrent et se mélangent. Le marché Béda. Venez vivre une véritable symphonie de saveurs. Le marché Béda. 10 539 boulevard Bineuf, au centre commercial Forêt. 514-999-2191. Radio Centre-Ville appelle, rappelle, interpelle.
Le temps qu'on a pris pour dire je t'aime, c'est le seul qui reste au bout de nos jours.
Diversité, une émission conçue pour vous. 13h-15h sur le 102.3 FM, Radio Centre-Ville. Diversité Radio Centre-Ville, une émission réunissant les représentants de différentes communautés ethnoculturelles de la radio. Diversité, chaque samedi, 13h-15h sur le 102.3 FM, Radio Centre-Ville.
Madame
Monsieur, bonjour. Vous écoutez l'émission Diversité présentée par Arlette Josué et je suis accompagnée de François Roberge, notre fidèle collaborateur.
Toujours fidèle au poste. Bonjour tout le monde.
On aura à la toute fin Ismaïl Mbonigaba qui va nous parler de la petite, la jeune fille. C'est une jeune fille, une étudiante de l'Université d'Ottawa.
Non, c'est une jeune femme de 21 ans, étudiante à l'Université de Trois-Rivières.
De Trois-Rivières,
oui, okay. Donc,
donc on a repêché son corps, donc on va en parler tantôt. Ouais. Et Mourad qui est chez lui. Bonjour Mourad.
Bonjour Arlette, c'est un plaisir de retrouver voilà. Diversité.
Mourad m'a mis le seul, l'unique.
Le oui, soleil. On est tous uniques.
Le meilleur parmi nous.
Voilà. Non. On est tous, chacun ses forces et ses faiblesses. Bah, écoute, c'est un plaisir de retrouver Diversité. Écoute, cette ambiance, ça me manque, mais il me fallait que je prenne un petit samedi, mais là je reviens avec plaisir.
Voilà. Merci Mourad.
Bienvenue à Montréal. Voilà.
Et aujourd'hui, Ferhat est absent, mais samedi prochain, il sera avec nous parce qu'on a une émission spéciale, hein, François, samedi 26.
Samedi 26, donc dans deux semaines,
dans
effectivement.
Deux semaines.
On est, non pas dans la rue, mais dans le centre de la place
du
Versailles.
Château.
Du château de Versailles, oui. Alors, ne manquez pas ça, c'est comme une espèce de journée porte ouverte. En fait, c'est une journée porte extérieure, on devrait plutôt dire. On sera en plein centre de la place Versailles, donc on va entendre vos commentaires aussi. Alors, venez nous voir, c'est une occasion de nous connaître davantage. Alors, en dessous de l'insigne de Radio Centre-Ville, on sera présent.
Donc, on va donner un petit coup de pouce à la place Versailles. Venez magasiner à la place Versailles. Vous allez pouvoir profiter de la présence des animateurs, animatrices de Radio Centre-Ville.
Tout le samedi. Ah bah oui, le samedi, toute la journée, on va descendre le plancher parce que nos studios sont juste un petit peu surélevés sur le plancher de la place. Et puis, c'est bien de dire aussi l'émission spéciale demain, Ismaïl, hein, autour de ce drame-là qui a eu lieu le mardi dernier à Trois-Rivières. Une émission spéciale demain, à la même heure ici, 13h, 15h. On aura pas mal de gens qui vont intervenir par rapport à ça. Et ouais. J'ai entendu que les parents peut-être vont être déplacés de là-bas pour ici, mais ils ne sont pas encore rendus ici.
Est-ce que sa mère est déjà rendue au Canada?
Je ne sais pas, mais j'ai entendu l'information. On va vérifier ça d'ici demain en préparant tout ça.
D'accord.
Donc, ça fait du bien de retrouver... à faux réalité.
Eh oui.
Mourad. Donc,
François et tout à l'heure aussi Fanfan.
Et tout à l'heure Fanfan qui va être avec nous. Il ne manquera que Tina.
Tina, ouais.
On espère, étant donné ici c'est plus facile d'être tous ensemble, on espère avoir Tina bientôt avec nous.
Shilana Jerusalem ikayala mi ilonoloze uhambe nami sumangishilana dawoyami ayikolana buso wami awukolana ilonoloze.
On va en Haïti parce que ça continue de brasser. Le conseiller présidentiel, l'ingénieur Leslie Voltaire, a été investi à la tête du conseil présidentiel de transition le 7 octobre 2024. Le représentant du parti Famille Lavalas, qui occupe cette fonction présidentielle tournante, promet de s'attaquer à l'insécurité et de préparer les voies vers les prochaines élections. Plusieurs voix s'élèvent pour condamner la déportation massive des Haïtiens irréguliers vers Haïti. Pas moins de 11 177 Haïtiens ont été refoulés en Haïti en moins d'une semaine. La police nationale mène des opérations policières dans les fiefs des gangs armés de Savien et de Grand Griffe dans le département de l'Artibonite. Plusieurs sources confirment la mort des membres des gangs armés lors des affrontements. Le bilan du massacre du 3 octobre 2024 des gangs armés de Savien et Grand Griffe s'alourdit et se lève à 115 morts et plusieurs centaines de blessés et de plusieurs personnes disparues, dont des femmes et des enfants. Plus d'informations avec Ketony Saint-Ville et son équipe.
Bonjour, bonsoir mesdames, messieurs, bienvenue dans la chronique Les Nouvelles d'Haïti et la communauté haïtienne à l'étranger pour ce samedi 12 octobre 2024. Cette chronique est réalisée et présentée par Ketony Saville, collaboration avec Yves-Patrice Mérisier depuis Port-au-Prince. Déportation massive des Haïtiens vers Haïti. Les autorités migratoires dominicaines ont déporté 11 177 Haïtiens vers Haïti en moins d'une semaine, du 3 au 9 octobre 2024. L'augmentation des contrôles migratoires a permis au gouvernement dominicain de dépasser l'objectif fixé en matière de renvoi d'Haïtiens au cours de sa première semaine. Déportation massive des Haïtiens vers Haïti. Les autorités migratoires dominicaines ont déporté 11 177 Haïtiens vers Haïti en moins d'une semaine, du 3 au 9 octobre 2024. L'augmentation des contrôles migratoires a permis au gouvernement dominicain de dépasser l'objectif fixé en matière de renvoi d'Haïtiens au cours de sa première semaine. La chancelière Dominique Dupuis est arrivée à Washington pour engager des discussions essentielles avec des membres de la diaspora, les partenaires américains et les organisations internationales sur la situation sécuritaire en Haïti et la question urgente des expulsions massives et discriminatoires des ressortissants haïtiens en République dominicaine, a précisé jeudi 10 octobre 2024 une note du ministère des Affaires étrangères. L'Observatoire international pour la démocratie et la gouvernance condamne avec la plus grande rigueur les déportations massives d'Haïtiens en situation migratoire irrégulière par le gouvernement dominicain. Ces pratiques sont profondément racistes et discriminatoires. Elles constituent une violation flagrante des droits humains et des conventions internationales. L'organisation constate que depuis son arrivée au pouvoir en 2020, le président Luis Abinader a adurci la politique migratoire de la République dominicaine en entraînant ainsi une augmentation drastique des expulsions des ressortissants haïtiens. Cette répression systématique ne fait que renforcer les conditions déjà extrêmement difficiles et la stigmatisation auxquelles les migrants haïtiens sont confrontés en République dominicaine. Pour sa part, le conseil permanent de l'Organisation des États américains, OEA, a tenu une session extraordinaire mardi 8 octobre 2024 au sujet de la situation des migrants haïtiens en République dominicaine à la demande de l'ambassadeur haïtien Gandhi Thomas, représentant d'Haïti à l'OEA, sur instruction de la chancelière haïtienne Dominique Dupuis. Selon l'ambassadeur haïtien Gandhi Thomas, le gouvernement haïtien est profondément préoccupé par ces politiques migratoires autoritaires et discriminatoires qui exacerbent également des discours haineux à l'encontre des migrants haïtiens, comme la ministre des Affaires étrangères et des Haïtiens vivant à l'étranger, Son Excellence Madame Dominique Dupuis, l'a si bien montré. De telles actions sont non seulement moralement répréhensibles, mais elles violent également les principes clés du droit international, notamment la Convention sur les réfugiés de 1951, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et la Convention américaine relative aux droits de l'homme, auxquelles la République dominicaine est partie, a indiqué le diplomate. Le gouvernement crée un groupe de travail multisectoriel sur l'accueil et la prise en charge des migrants déportés par la République dominicaine suite à une réunion. Le groupe a décrété la permanence en ce qui concerne l'accueil et la prise en charge des migrants selon la primature. Nous retrouvons Yves-Patrice Mérisier depuis Port-au-Prince pour les points forts de l'actualité.
Le conseiller de transition Leslie Voltaire a été investi dans ses fonctions en tant que président du conseil présidentiel de transition le lundi 7 octobre 2024. Il succède ainsi à Edgar Leblanc-Fils et assure la direction de l'équipe de transition jusqu'au 7 mars 2025, conformément à la résolution modifiant celle du 7 mai 2024. La cérémonie de prise de fonction s'est déroulée en présence de 8 membres du conseil présidentiel de transition, signataires de la résolution du premier ministre AI, Carlos Hercule, et des membres du gouvernement, de Noamil Rameau, directeur général AI de la police nationale d'Haïti, ainsi que des membres du corps diplomatique et consulaire. Il est à noter l'absence du président sortant Edgar Leblanc-Fils, qui avait pris ses distances dans une adresse à la nation. Lors de son discours, Leslie Voltaire s'est dit fier d'assumer ses responsabilités en tant que président du conseil de transition. Notre priorité est claire, restaurer la sécurité dans tout le pays. des mesures fermes et immédiates sont prises pour protéger chaque citoyen. Nous mettons également le cap sur des élections transparentes et inclusives pour un retour à l'ordre constitutionnel. Restons unis, a-t-il indiqué. Leslie Voltaire rencontre l'ambassadeur des États-Unis. En effet, le président du Conseil présidentiel de transition, Leslie Voltaire, a reçu M. Dennis Hankins, ambassadeur des États-Unis, le mercredi 9 octobre 2024 à la Villa d'accueil lors d'une visite au CPT. Au cours de cette visite de courtoisie, le diplomate américain a félicité le CPT pour son engagement en faveur d'une transition pacifique du pouvoir. Il a également réaffirmé que les États-Unis sont prêts à continuer à collaborer avec le Conseil pour bâtir un avenir meilleur pour tous les Haïtiens. Bas-Artibonite, plusieurs tués. En effet, plusieurs bandits armés ont été blessés dans le cadre des opérations policières au niveau du Bas-Artibonite, a déclaré Lionel Lazare, porte-parole adjoint de la police nationale d'Haïti. Ces opérations s'intensifient dans les fiefs des gangs Cocora sans race, opérant à la croix Péris et Grand Griffe de Savien, a assuré M. Lazare. Des bandits tuent des civils dans la commune de Lankaye. En effet, des individus lourdement armés, membres du gang Taliban qui opère dans la zone de Canaan, ont attaqué plusieurs localités de la commune de Lankaye le jeudi 10 octobre 2024 vers 3h du matin. Selon les témoignages des résidents, les bandits ont ouvert le feu, tuant au moins 3 personnes, en blessant plusieurs autres et incendiant des maisons et des véhicules, notamment dans les communautés de Thoman, Vigné, Bercy et Font-Basile. Paniqués, de nombreux habitants ont fui leur maison pour échapper à la fureur aveugle de ces criminels. Des unités spécialisées déployées à Lankaye, la police nationale d'Haïti est intervenue. Plusieurs unités spécialisées de l'institution policière sont arrivées en renfort aux policiers déjà sur place afin de contrecarrer cette attaque. Les dispositifs de sécurité dans la commune de Lankaye ont donc été renforcés avant nos abris. L'un des principaux dangereux chefs de gang de Dame Marie a été tué. La police nationale d'Haïti a neutralisé l'un des chefs de gang de Dame Marie dans le département de la Grandance, dénommé Tikeken, lors d'une opération déroulée le 8 octobre 2024. C'était l'un des plus dangereux bandits de la région, précise la police. Au moins 105 enfants ont été tués. Le rapport annuel 2024 sur les enfants et les conflits armés publié par le secrétaire général des Nations Unies exprime une profonde inquiétude face à la violence des gangs armés en Haïti. Le rapport souligne que les violations graves des droits des enfants, notamment le recrutement forcé, les meurtres, les violences sexuelles et les attaques contre les écoles, de janvier à septembre 2024, 105 enfants ont été tués et plus de 300 000 autres sont déplacés à l'intérieur du pays, a-t-il soutenu. Le premier ministre haïtien Gary Conny est au Kenya après son séjour aux Émirats Arabes Unis pour une visite officielle de 4 jours. Il s'est entretenu avec les autorités kenyanes ce matin sur le processus de déploiement des prochains contingents qui doivent venir renforcer les effectifs déjà en Haïti pour aider au rétablissement de la sécurité. Il sera également question de développement économique entre les deux pays qui favorise la stabilité nationale. Au cours de sa visite, le Premier ministre Gary Conny devrait avoir des discussions bilatérales de haut niveau en mettant l'accent sur le renforcement des liens entre le Kenya et Haïti, en particulier dans les domaines d'intérêt mutuel, notamment la coopération en matière de sécurité et la promotion de partenariats qui favorisent la stabilité régionale, a déclaré le secrétaire du Premier ministre Moussalia Moudavadi le 8 octobre 2024. Relations bilatérales entre Haïti et le Kenya. Le Premier ministre Gary Conny, qui a été reçu le vendredi 11 octobre 2024 par le président kenyan William Ruto, a salué le travail que réalise la MNS en Haïti. Le Premier ministre Conny a également invité les partenaires internationaux à concrétiser les promesses faites pour financer la mission multinationale en Haïti. Le site Bois Caïman devient patrimoine mondial. En effet, la délégation permanente d'Haïti auprès de l'UNESCO a annoncé l'inscription historique le 9 octobre 2024 du site Bois Caïman au réseau UNESCO, des lieux d'histoire et de mémoire liés à l'esclavage et à la traite devenant ainsi le premier site haïtien à rejoindre ce registre mondial au cours de la célébration du 30e anniversaire du programme des routes des personnes mises en esclavage de l'UNESCO, un programme initié par Haïti et le Bénin en 1994. Soumise en janvier 2024, la candidature de Bois Caïmon s'inscrit dans l'initiative du gouvernement haïtien visant à valoriser le patrimoine national. Bois Caïmon, qui a été le théâtre d'une cérémonie sociopolitique en août 1791, symbolise la lutte pour l'abolition de l'esclavage et l'indépendance d'Haïti. Ce site incarne également les valeurs universelles de liberté, d'égalité et de dignité. En tant que symbole de résistance et de quête d'autodétermination, Bois Caïmon reste un jalon incontournable dans l'histoire de la révolution haïtienne et la formation de l'État haïtien. Classé patrimoine touristique national depuis 1982 et déclaré d'utilité publique en 1995, Bois Caïmon est désormais un symbole universel d'émancipation. Son inscription à ce réseau renforce son rôle en tant que catalyseur d'un dialogue global sur l'histoire de l'esclavage et les luttes pour la liberté.
Merci de nous avoir suivis. Pour plus de détails sur les nouvelles d'Haïti et de la communauté haïtienne à l'étranger, visitez le miroirinfo.ca. Ketony Saint-Ville et toute l'équipe vous donnent rendez-vous à samedi prochain pour un autre numéro.
Pour les nouvelles de l'Amérique latine, nous retrouvons depuis le Mexique notre collègue Maro Huerta.
Ici les nouvelles pour l'Amérique latine. Argentine. Le gouvernement national a soumis au Congrès la loi FOI, avec laquelle il visage abroger environ 70 lois, considérées comme des réglementations obsolètes. La présentation qui a pris forme au ministère de la dérégulation et de la transformation de l'État soutient qu'il s'agit de lois qui représentent un obstacle aux libertés et affecter les droits de propriété, entre autres abus de l'État. De même, les droits cherchent à parvenir un droit plus ordonné et par conséquent plus juste et une Argentine avec plus de liberté. Bolivie. Ce jeudi, le président de la Cour suprême de justice de Bolivie a annoncé que le gouvernement des États-Unis avait officialisé sa demande d'extradition de l'ancien chef de la force spéciale de lutte contre le trafic de drogue, Maximiliano Dávila, car il est requis par la justice, accusé de collusion avec un gang qui opère dans ce pays. El Salvador. Face à la fracture des tissus familiaux, le mouvement des victimes du régime a présenté hier une lettre au Conseil national de la petite enfance, de l'enfance et de l'adolescence, dans laquelle il demande des informations sur les programmes destinés aux fils et filles des personnes capturées pendant le régime d'exception, prendre des mesures pour rétablir un système de visite dans les prisons et de réaliser une étude sur les violations subies à l'égard des enfants et des adolescents dans ce contexte. Chili, dans un pays avec une longue histoire de troubles sociaux et de luttes de pouvoir, la grande majorité, les 91%, considèrent la société chilienne comme très polarisée. Et notre, la majorité, 57%, considère que la polarisation au Chili est accentuée sous le gouvernement du président Gabriel Boric. Colombie. La polarisation et les épidémies sociaux ont également frappé à nouveau à Colombie. La décision du Conseil national électoral d'inculper le président Gustavo Petro et ses directeurs de campagne pour les irrégularités présumées dans le financement a non seulement généré une forte controverse politique et juridique, mais un déclenche d'une confrontation qui menace de mettre les faux au pays. Mexique. La présidente Claudia Sheinbaum a souligner qu'après la nomination de Juan Ramón de la Fuente à la tête du ministère des Affaires étrangères, le canciller avait une réunion avec l'ambassadeur des États-Unis dans le pays, Ken Salazar. Cela a lieu afin de briser la pause imposée par l'ancien président López Obrador et repose en la position du diplomatique Ken Salazar impliqué dans une controverse sur la question de la réforme du système judiciaire.
Le temps qu'on a pris pour dire je t'aime, c'est le seul qui reste au bout de nos jours.
Diversité, une émission conçue pour vous. 13h-15h sur le 102.3 FM, Radio Centre-Ville. Diversité Radio Centre-Ville, une émission réunissant les représentants de différentes communautés ethnoculturelles de la radio. Diversité, chaque samedi, 13h-15h sur le 102.3 FM, Radio Centre-Ville.
Oui, nous allons parler sport. C'est la rubrique Les sports diversifiés. Fanfan est avec nous aujourd'hui. Bonjour Fanfan.
Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, j'ai vu qu'on a un nouveau joueur. Ismaël, c'est un nouveau
joueur. Ça, c'est un joueur qui avait disparu. Il faut préciser. Ouais. Je l'ai pêché tantôt. Je l'ai repêché.
Le mercato existe.
Mais oui.
Ça fait du bien.
Mais il y a un autre là. Je sais que chaque samedi, tu cites toujours son nom à la place de Ferhat. Ouais. Ferhat n'est pas là aujourd'hui, mais c'est voilà Mourad.
C'est un autre joueur.
Un
joueur émérite. Voilà.
Ça fait plaisir de te revoir, mon frère.
Bon, les gars, cette semaine, il y a eu beaucoup d'activités sportives, surtout au point de vue football. Il y a eu des matchs intéressants, et puis il faut commencer par l'Algérie qui a gagné un match 5 à 1.
Ah
5
oui.
à 1. Donc ah tu oui. devais être content, l'Algérie a gagné.
J'ai 5 pas 1. Vu le match, alors.
Non, hein.
Oui, j'ai entendu ça. Il y a aussi le Cameroun qui a gagné 4 à 1.
4 à 1, Cameroun.
Ah oui, oui. Dans toute la controverse que vit le football africain. Hein. Hein? Et toi qui n'étais pas dans les tribunes, tu sais, il est interdit de s'y jouer.
Je pense que ça a fait du bien.
Il est banni.
Il est banni.
Avant de parler.
Le président de la fédération, prends mon air.
Ouais.
La prochaine fois, il va falloir qu'il tourne sa langue cette fois.
Avant même de débuter l'émission, il faut dire que Haïti a gagné son match hier. C'était
Wow.
On va demander un petit bravo pour Haïti. Haïti a gagné contre Aruba 3 buts à 1, donc c'est un match minable. Haïti, je ne sais pas si tu as vu le match, Haïti, c'est... Bon, de toute façon, contre Aruba, ce sont des formalités, parce qu'à Aruba, il n'y a pas de football en Aruba, c'est le cricket. Ouais. Qui joue plus là-bas, donc Haïti a gagné. Et le match retour, c'est le lundi encore à Aruba, parce que Haïti ne peut pas recevoir à la maison à cause des problèmes politiques qu'il y a en Haïti. Donc Haïti reçoit toujours à l'extérieur. Bon, on va parler de l'Amérique du Sud. Le Brésil. Le Brésil est en mauvaise posture pour se qualifier pour la Coupe du Monde, mais ils ont été à Santiago, ils ont gagné leur match contre le Chili. 2-1. Un extrémi à la 89e minute, il y a un nouveau Luis Enrique qui a marqué le but et il a fait jouer un joueur de 22 ans qui s'appelle Igor Jesus qui a compté le premier but pour le Brésil. Donc c'est une victoire importante pour la Seleção parce que l'équipe est en mauvaise posture pour la qualification de la Coupe du Monde 2026, Canada, États-Unis et Mexique. Du côté de l'Albi Celeste, l'Argentine. L'Argentine était en déplacement à Caracas, en Venezuela, pour rencontrer la sélection vénézuélienne de football. Avec Lionel Messi, il est revenu au jeu. Mais malheureusement, le match a été... ça ne devrait pas se jouer ce match à cause de terrain impraticable. La pluie, la boue sur le terrain. L'arbitre n'a pas arrêté le match. Donc ça a terminé un but partout. C'est une belle victoire pour l'Argentine. Parce que quand on joue à l'extérieur... On ne perd pas, c'est comme une victoire. Équateur-Paraguay, ça a terminé 0 but partout. Bolivie a gagné son match parce que quand on va en attitude en Bolivie, en Équateur. C'est difficile pour que l'équipe arrive la même journée pour jouer un bon match, parce que les joueurs ne peuvent même pas respirer, parce que là-bas, c'est l'attitude, c'est très élevé. Donc, Bolivie a battu la Colombie 1-0. Donc, Chili, Brésil, l'Argentine aussi, et Pérou, Uruguay, 0-0. Donc, mardi, il y a d'autres matchs encore. Colombie reçoit le Chili, Paraguay le Venezuela, l'Uruguay contre l'Équateur, l'Argentine contre la Bolivie et le Brésil à Brasilia reçoit la sélection péruvienne de football. Du côté de la Ligue des Nations 2024, ça c'est l'Europe. 2024-2025, il va y avoir des matchs très importants parce qu'il faut le dire, à Wembley Stadium, la sélection anglaise de football a perdu son match contre la Grèce. C'est une victoire historique pour les Grecs de gagner à l'extérieur contre la sélection
anglaise.
La sélection anglaise de football. Ils ont perdu par 2-1, donc ça a été un match historique. Et aussi Israël, qui ne reçoit pas à la maison, reçoit à l'extérieur. Ils ont reçu à l'extérieur. La France a gagné par 4-1. L'Allemagne a gagné contre la Bosnie-Herzégovine 2-1. Le match tant attendu, c'était l'Italie qui reçoit la Belgique. Wow. Match nul, 2-0. C'était un bon match de football. Quand il y a 4 buts dans un match, 4-5 buts, les spectateurs aiment ça.
Oui.
Quand c'est terminé, 0-0, 1-0, il dit c'est quoi cette affaire, on n'a rien vu. Donc il y a eu 4 buts. Ça a... Et aujourd'hui aussi, il y a beaucoup de matchs. L'Espagne qui joue aujourd'hui contre le Danemark. Et puis il y a la Belgique, la France, Écosse contre le Portugal. Non, c'est la Pologne contre le Portugal. Ça va être des matchs importants. Il y a une joueuse que je remarque qui n'est pas là, c'est Madame Clementina Santos.
Ben oui. Elle doit se préparer pour le match de cet après-midi, Portugal-Pologne.
Portugal-Pologne, il y a le match portugais d'ordinaire, elle est avec nous. Je voudrais lui poser la question.
Elle n'est pas loin. Elle est là tous les lundis, les mercredis. De 18h à 20h. Mais ça va bientôt, j'espère, avec diversité. Je suis sûr, le 26, il sera là pour la porte ouverte.
Oui, Marc, parce que quand on était à Saint-Laurent, c'était un peu plus difficile pour plusieurs personnes. Mais maintenant que l'équipe Ismaël, Mourad...
La preuve, on est tous là.
Voilà, exact. Ouais,
du côté du hockey, le Canadien a un début de saison, un bon début de saison. Mm-hmm. À la maison, ils ont gagné le match 1-0 contre les Maple Leafs de Toronto. C'est rare au hockey, on voit des matchs terminés par 2-1, 3-1, 3-2. C'est 1-0, là, c'est pas facile, un match de hockey qui se termine. Et ils ont perdu jeudi. Oui, jeudi, ils ont perdu 6-4 contre les Bruins de Boston.
Ça c'est un vrai match de hockey, ça.
Ça, c'est un match de hockey. Et aujourd'hui, c'est les Sénateurs d'Ottawa qui reçoivent les Canadiens. Du côté à la MLS, l'équipe montréalaise est encore en vie. En 9e position, il reste un dernier match samedi prochain au Stade Saputo contre le New York City. Mm-hmm. Donc, ils doivent absolument gagner ce match. Et l'équipe DC United doit faire soit un match nul ou perdre son match. Donc, il y a beaucoup de possibilités pour qu'on attend les éliminatoires. Donc, il faut absolument gagner samedi. Une défaite de DC United de Mathieu, Montréal est qualifié pour les séries de fin de saison. Donc, je ne sais pas si vous regardez le futsal.
Oui.
Le futsal.
C'est quoi?
Le futsal, c'est du soccer intérieur.
Dans les salles.
À l'intérieur. Donc, oui. Il y a eu la grande finale dimanche dernier.
La Coupe du Monde.
La Coupe du Monde.
Exact. Qui s'est déroulée au Maroc.
Le Brésil contre l'Argentine. Mm. L'Argentine a perdu 2-1. C'est extraordinaire parce que le terrain n'est pas assez vaste pour avoir. C'est 8 contre 8. Ça court à droite.
C'est la grandeur d'une patinoire à peu près.
Exactement. Ben, okay. Exactement.
C'est plus un stade de handball dédié pour le football.
C'est le futsal. Il y a du monde aussi. Il y a eu beaucoup de monde.
Mais il n'y a pas de gardien de but aussi, non?
Non, il y a un gardien
de but. Il y a un gardien de but.
Il y a deux gardiens, un gardien de chaque côté. Donc ça joue tellement vite, tellement vite et rapide. Et puis ça. Le ballon ne sort pas à l'extérieur.
Il n'y a pas de touche.
Ça touche le mur, ça
revient. Ça revient, il n'y a pas de touche. Ouais.
Ça prend des trucs là aussi.
Ouais.
Pour jouer.
C'est presque du squash finalement.
Oui, exactement.
Donc, mais c'est très populaire de plus en plus. Hein. Ouais. La Coupe du Monde qui se déroule au Maroc, ça a drainé du monde et c'est beaucoup qui suivent ça. Oui,
ouais, exactement. Bon, de toute façon, la semaine prochaine, il va y avoir beaucoup de résultats, les matchs de cette semaine. Haïti qui joue lundi contre Aouba. Et maintenant, attendu l'Allemagne qui reçoit à Hanovre les Pays-Bas. Wow. Donc, ça a toujours des matchs extraordinaires. Ah oui, Pays-Bas. Avant, on appelait ça la Hollande. Là, ça fait très longtemps, c'est changé. Netherlands, des fois, c'est Netherlands, des fois, c'est Pays-Bas. Donc, je ne sais pas. C'est comme Haïti, des fois, c'est Cap-Haïtien, des fois, c'est...
C'est comme la Côte d'Ivoire.
Est-ce que j'ai le temps pour une question? On parlait, j'ai vu brièvement dans les nouvelles, le Sénégal se cherche un sélectionneur et Hervé Renard est en liste. Hervé Renard, en plus, est en couple avec une Sénégalaise. Est-ce qu'il y a des chances de se retrouver au Sénégal? Lui qui a gagné quand même deux coupes.
Tu sais qu'il est en couple avec une Sénégalaise?
Oui, tout à fait. Il est même marié avec. Okay, et il a quand même gagné deux coupes d'Afrique des Nations avec deux équipes différentes dans le passé. Est-ce qu'il y aurait des chances de diriger le Sénégal, d'après toi, Hervé Renard, qui a quand même bien fait avec les Bleus? Mais bon, pas tant que ça. Là. Mais il est en liste.
Il paraît que Verena, c'est un coach de football féminin. J'ai lu quelque chose sur Paris Match. On parlait de Verena. C'est un très bon coach. Il a déjà entraîné deux équipes en Afrique.
Oui.
Ça a toujours été un bon entraîneur. Moi, Haïti, on cherche un entraîneur.
Bon.
Moi, j'en ai parlé avec quelqu'un pour de vrai. J'en ai parlé.
Est-ce qu'il y a le budget?
Pourquoi? Non, le budget, c'est la Confédération qui paye. Okay. Quand les Français viennent entraîner une équipe haïtienne, Haïti dépense 50% sur le salaire de l'entraîneur et puis la France paie l'autre moitié. C'est pour ça qu'on a toujours eu des entraîneurs français. Hervé Renard, c'est un très bon entraîneur. C'est un gars de 6 pieds et quelques. Ouais. Il est très grand. C'est un très bon entraîneur.
Voilà. Il a quand même dirigé 6 sélections nationales et deux fois il a gagné avec la Zambie et avec la Côte d'Ivoire. Il a aussi dirigé la Chine, l'Arabie Saoudite. Bon, c'est comme ça qu'il était connu, l'Arabie Saoudite. Les autres, je ne sais pas, mais c'est quand même un coach très prisé. Alors,
il n'a pas dirigé le Maroc aussi?
Oui, aussi, je pense aussi. Et le Canada l'a rappelé, tout comme Thierry Henry, pour 2026, mais il a dit non. Alors,
il a dit non.
Il n'y a pas de budget.
En fait, il n'a comme pas vraiment répondu, mais je pense qu'il a compris. Enfin, lui, il vise de succéder à Didier Deschamps, mais je pense que c'est peu probable.
Mais est-ce qu'il a entraîné l'équipe féminine française?
Oui, c'est ça. C'est l'ancien entraîneur de l'équipe féminine, jusqu'aux Jeux olympiques. Ouais. Voilà. Donc, il a quand même bien performé, mais il n'a pas dépassé Corinne Diacre, qui avait été virée pour être remplacé par Hervé Renard. Mais en statistique, il est encore stoppé au quatrième rang parce que malheureusement, les Bleus sont comme bloqués en quatrième position. Mis à part la Ligue des Nations au mois de février, où ils étaient en finale contre l'Espagne qui a gagné, mais mis à part ça, la Coupe du Monde 2019, quatrième, Jeux Olympiques, quatrième, Coupe du Monde l'année dernière, quatrième, la maudite quatrième place, quoi.
Oui, il est bloqué à quatrième.
Sa vitesse est restée là.
Mais je ne veux pas anticiper, mais on va en parler tout à l'heure, justement.
On va parler de le cas de...
On va parler, en fait, des Bleus féminines, mais c'est ce qui s'en vient.
On va parler des Bleus masculins, là, maintenant.
Oh, ouais.
Antoine Griezmann. Il a annoncé sa retraite
internationale. Oui.
Je comprends. Ça, c'est difficile à comprendre, cette situation-là. C'est un très bon joueur. Il est très utile à l'équipe française. Il joue, il marque des buts. Il a annoncé. Il paraît que c'est à cause de Didier Deschamps. Il paraît. Parce que les journalistes...
Et pourtant, c'est le chouchou de Didier Deschamps. Hein?
Oui, mais il paraît que c'est à cause de Didier Deschamps qui a laissé la sélection française de football. Mais la France a tellement de bons joueurs. Donc, c'est son absence...
Mais Didier Deschamps, il est toujours sélectionneur de France, non?
Oui, il est toujours sélectionneur de France.
C'est ça.
Il est toujours.
Ben, dans le dernier match, Mbappé n'était pas là aussi.
Non, Mbappé, il revient, il est blessé. Il était blessé, là.
OK.
Il était blessé à la cuisse gauche.
OK.
Il y avait une élongation musculaire à la cuisse gauche. Il n'a pas joué. Donc, il ne l'a pas rappelé. Mais quoi qu'Alain Ancelotti l'a fait jouer un match de Real Madrid, il est sorti à la 67e minute de jeu. Parce qu'au Real Madrid... On t'a payé pour jouer, on t'a payé pour qu'on gagne. Tu blesses ou tu ne blesses pas, tu montes.
Ouais, c'est bon.
Mais bah, c'est ça qui s'est fait parce qu'il est blessé, il l'a fait jouer.
Hey, comment payer, là?
Faut payer pas faire comment? Le malin.
Ben, Didier Deschamps ne l'a pas appelé. Donc, quand même, la France a gagné 4-1. Donc, comme j'ai dit, la France a beaucoup de jeunes joueurs. Beaucoup. Mais ce qui m'inquiète, la France, 99% des joueurs, ce sont des black people.
Deuxième
ce sont des black people, qui dans l'équipe française, quand on regarde le statut de l'équipe, c'est quasiment des black people, des haïtiens, des marocains, des gens qui vivent la Côte d'Ivoire.
Il y en a de toute la planète, toute l'immigration, c'est la deuxième, troisième génération des immigrants. Hein. Ils sont nés là-bas, et puis à bonne école, et puis on a eu de grands joueurs. Hein. Écoute, Tigana, tu te souviens de Tigana?
Tigana?
Oui.
Oui.
Bah oui, grand joueur.
Jean Tigana.
Oui,
Jean Tigana. Ouais. Ouais, c'est un très bon milieu de terrain. Ouais. Très bon joueur. La France a connu pas mal de bons joueurs. Moi, les joueurs que j'ai aimés plus avec la France, c'était mon joueur préféré, c'était Thierry Henry.
Ouais.
Thierry Henry, ça a été extraordinaire. Il a laissé la France.
Elle est toujours là, elle guette la place de Deschamps.
La place de Deschamps, c'est plus Zinedine Zidane. Oh, d'après moi.
Ça joue serré derrière là.
Mais pas que Zinedine Zidane, c'est Zizou le Christ. Hein, alors.
Zizou. Non, il est modeste, il n'irait pas jusque-là.
Okay, je pense que le match est terminé. L'arbitre vient de siffler. On avait de l'arrêt de jeu qu'on jouait. L'arbitre vient de siffler, c'est la fin du match. Donc ça a été un match nul. Un but partout. Mm-hmm. La semaine prochaine. On va avoir un match avec des scores plus élevés, plus larges. OK?
C'est parti.
Merci. Bonne fin d'émission.
Merci beaucoup, Fanfan. Le temps d'une pause, on va revenir avec la rubrique Le sport donne des ailes.
Jérusalem, Ikayalami, Ilondolose, Uhambenami, Zungangishilana. Jerusalem, Ikayalami, Ilondolose, Uhambenami, Zungangishilana, Dawoyami, Aikolana, Busoami.
Le sport donne des ailes, elle compétitionne, elle marque des points, elle se surpasse, elle gagne des championnats, mais surtout, elle nous inspire. À Radio Centre-Ville, le sport donne des ailes.
Vous aimez le sport? Vous êtes bien servi. Donc, après la rubrique Les sports diversifiés avec Fanfan Turenne, tout de suite, c'est.
C'est notre
Berge, on va parler voilà. d'Assil. Hein?
Assil, oui, Assil Toufali, donc qui nous revient, donc à qui j'ai posé des questions sur la Ligue des Nations, oui. Non, pardon, la Ligue des Championnes qui a commencé cette semaine. Alors, il y a déjà eu des matchs assez enlevants. Alors, je lui ai proposé de nous les analyser. Voici ce que ça donne, Maestro Mourad.
Toujours à Radio Centre-Ville, 102.3 FM, radiocentreville.com. De retour à notre chronique sport, notre chronique footballistique, avec notre spécialiste Assil Toufali, en duplex avec Lyon. Assil, rebonjour et re-bienvenue à Radio Centre-Ville.
Bonjour François, et encore une fois, merci pour l'invitation.
Ben, ça nous fait un grand plaisir. Alors, ce qui a retenu notre attention, en tout cas, surtout la mienne et probablement la tienne, c'est les fameuses phases de groupe de la Ligue des Championnes, dont la finale est prévue le 25 mai 2025 à Lisbonne. Et donc, première phase de groupe cette semaine. Écoute, pour faire simple, les Anglaises sont heureuses et les Espagnoles sont malheureuses. Hein? Quand on regarde les résultats, Manchester City et Chelsea FC qui gagnent et Real Madrid qui perd par définition et surtout le FC Barcelone, 2-0 contre Manchester City. Assil, que se passe-t-il tout d'un coup?
En fait, si on demande à n'importe qui sur Terre qui s'intéresse peu ou beaucoup au foot féminin, il va dire que peut-être la surprise de ces derniers, je ne sais pas, 3-4 mois, c'est vraiment la défaite du Barcelone hier. Parce qu'à un moment donné, on était un peu dans cette position où on pensait que le Barcelone, pour les battre, faut un miracle. Et le match d'hier, moi je l'ai regardé attentivement, j'étais convaincue que Manchester City ont les moyens de plus ou moins, je sais pas, combattre ou être au même niveau avec le Barcelone, mais là, Gareth Southgate nous a sorti une masterclass, comme on dit en anglais. Ils ont su comment faire le pressing, ils ont dominé le Barcelone. Sans la gardienne du Barcelone, je pense que le score aurait été 3 ou 4-0. C'était sublime de la part de Manchester City. Et ça prouve que De un, il y a de la fatigue du côté des Espagnols parce qu'elles enchaînent les matchs depuis plusieurs mois maintenant. Et de deux, que Barcelone, on peut les battre. C'est pas cette équipe imbattable qui va dominer toute la terre pendant des années. Et bien sûr, pour Chelsea, c'est aussi un très beau match, un très bon résultat pour Sonia Bonpastor. Même si elle n'était pas très motivée ou très contente, elle a dit que Chelsea doit proposer encore beaucoup plus dans le sens du jeu ou dans d'un point de vue footballistique. Mais ça reste une victoire très importante pour lancer leur campagne cette saison.
Alors, j'ai pas vu le match du FC Barcelone, mais j'ai entendu dire qu'Aitana Bonmati, la fameuse Aitana Bonmati, aurait à peine touché le ballon. Qu'est-ce qui se passe?
Ouais, c'est ça. En fait, c'est ça le problème, c'est que si on prend en considération le développement du foot féminin, je vais pas faire longtemps, mais si on prend le développement du foot féminin en espagnol ou en Espagne, ça date pas de comme aux États-Unis des années, c'est vraiment récent. Et cette montée en puissance du FC Barcelone, ça a commencé en 2015 avec la professionnalisation du club, mais c'est surtout ces 3-4 dernières années où on voit cette montée gigantesque, on va dire, en puissance. Et depuis, les filles enchaînent les matchs d'une façon affreuse, on va dire. Il y a la Coupe d'Espagne, il y a le championnat espagnol, il y a la Ligue des Champions et il y a tous les matchs avec la sélection nationale. Et à un moment donné, hier à Aitana Bonmati, on avait cette impression qu'elle n'avait plus les moyens ou elle n'avait plus, comment dire en français, un peu cette sauce dans les jambes. Elle ne pouvait plus courir, en fait. Elle était vraiment fatiguée. Donc ça peut être une des raisons pour laquelle ces derniers mois, on a senti que Aitana Bonmati est un peu moins en puissance. Ça peut être aussi au fait que Gareth Taylor a pu mettre en place ce milieu et sa priorité était vraiment de pouvoir fermer les espaces qui aboutissent à Aitana Bonmati. Il sait bien que si tu arrêtes Aitana Bonmati, tu arrêtes tout le Barcelone, en fait.
Voilà. Et l'autre match, évidemment, Sonia Bonpastor contre Alberto Toril. Sonia Bonpastor avait dit cet été qu'elle vise la Ligue des Nations. Alors, le championnat anglais, probablement qu'elle va le gagner, mais penses-tu que c'est réaliste? En tout cas, c'est bien parti pour elle depuis qu'elle était à Chelsea, un peu comme à Lyon. Tout lui va bien, quoi.
Ouais, elle a les moyens. Si on veut être à 100% honnête, en fait, elle a les moyens dans chaque position. Au lieu d'avoir une joueuse de haut niveau, elle a deux joueuses. Donc, et on n'oublie pas qu'il y a aussi Sam Kerr qui revient de blessure, qui est censé revenir d'ici quelques mois. Donc, d'un point de vue de weapons, on va dire, ou ses outils de réussite, elle a tous les outils. Elle a le staff complet, elle a les joueuses de très bonne qualité, elle a fait un excellent mercato d'été. Le seul problème, c'est en fait de pouvoir concrétiser tout ça sur le terrain et voir au final si elle va pouvoir vraiment mettre Chelsea au même niveau que Lyon et le Barcelone, parce qu'on est tous d'accord que jusqu'à maintenant, les deux favoris pour la Ligue des Champions, c'est bien l'OL et Barcelone.
Voilà. Et brièvement, l'autre match qui t'a sans doute intéressé, match plutôt facile, l'Olympique Lyonnais contre Galatasaray, l'équipe d'Istanbul, victoire relativement facile, mais on retient une gardienne de but assez solide côté turc. Est-ce que c'est une équipe importante en Turquie? Moi, je la connaissais pas.
Ouais, elles sont les meilleures en Turquie, mais comme c'est le cas dans ces pays où le foot féminin peine à se développer, ou même le développement a commencé un peu tard, comme en Chypre, comme peut-être dans les pays arabes, dans ces régions, ou même en Italie, où le foot féminin vient de se professionnaliser récemment. Il y a un bon niveau, elles sont les meilleures en Turquie, mais il n'y a pas moyen de pouvoir se mettre au même niveau que l'OL, même si elles ont tout fait dans le match. Il y avait vraiment cette compatibilité défensive et tout. Il y a la gardienne qui a sorti un de ses meilleurs matchs de son histoire, peut-être, mais au final, il y a vraiment ces talents individuels à Lyon qui sont largement au-dessus.
Voilà, surtout Lindsay Oram, qui, soit dit en passant, est la deuxième buteuse présentement en Arkema Premier League. Et parlons-en brièvement, Clara Matteo qui a 6 buts à son actif pour le Paris FC. Et ça m'amène à la question suivante. La semaine prochaine, Laurent Bonadei va présenter sa première sélection et ça sera suivi de 2 matchs amicaux contre la Jamaïque et contre la Suisse. D'entrée de jeu, est-ce que Clara Matteo revient d'après toi?
Si elle ne revient pas, c'est comme si Laurent Bonadei, au final c'est son choix, mais c'est comme si Laurent Bonadei va recommencer démarrer son ère, cette nouvelle ère avec lui comme entraîneur, par la même faute commise par Hervé Renard. On sait bien que c'est une sélection nationale, donc on doit vraiment prendre le top du top, mais en tant que talent ou en tant que ce qu'elle propose sur le terrain, Clara Mateo, il n'y en a pas une deuxième Clara Mateo en France. Elle n'est sûrement pas la meilleure techniquement, ou elle n'est pas la meilleure tactiquement, parce que le niveau proposé au Paris FC n'est pas le même que celui au PSG ou à Lyon. Mais la fille, elle réussit à trouver ses espaces, elle a un peu ce jeu à l'ancienne du numéro 10. Donc j'espère vraiment pouvoir la voir en équipe de France. Elle le mérite, elle fait un très bon début de saison. Et depuis 3-4 années là, elle enchaîne les performances, alors elle le mérite bien.
Alors d'après toi, à quoi va ressembler cette sélection? Et j'y vais déjà d'une prédilection. Côté États-Unis, on peut imaginer que Delphine Cascarino va quitter Santiago pour revenir. Mais est-ce qu'une joueuse comme qui est très oubliée, je trouve, Olei Matassar, la footballeuse du côté de Washington DC, très très bonne joueuse, qui mène très bien, qui joue très bien avec son équipe, on dirait qu'elle est oubliée avec les Bleus. Est-ce qu'elle pourrait revenir chez les Bleus? Il me semble que ça ferait du bien, non?
Ça va faire du bien. Là, ce qui est sûr, c'est qu'en fait, la compétition, ou si Laurent Bonadio est en train de mettre en place un calendrier, l'objectif final, c'est bien évidemment l'Euro l'été prochain en Suisse. Donc, cette période va être, c'est comme une période d'essai pour lui. Il va essayer d'intégrer de nouvelles joueuses peut-être, ou redonner la confiance à d'autres joueuses. Et d'autres joueuses, il va bien décider si elles vont rester en équipe de France ou non. Donc, il y a vraiment un choix à faire. Ce qui est sûr que on aimerait vraiment voir de nouveaux visages ou de nouveaux visages. Ça fait un moment qu'on voit les mêmes noms offensivement avec l'équipe de France, et on a l'impression que dès qu'elles arrivent à ce tournoi majeur, elles n'arrivent pas à mettre les moyens pour, se mettre en valeur. Donc peut-être que des joueuses comme Olei Matassar, ou même je pense à des autres joueuses comme, peut-être Sandy Baltimore va avoir un rôle plus important cette fois-ci avec Laurent Bonadeyi. Ce qui est sûr, c'est qu'il est en train de faire un scouting, parce que récemment, il a été à Aston Villa, il a été à Everton, donc il est en train de voyager d'un pays à l'autre pour parler avec les joueuses et les staffs. Donc là, c'est très intéressant.
Voilà, réponse jeudi 17 octobre. Donc, première liste présentée par Laurent Bonadeyi. Et en terminant brièvement pour les prochains matchs, justement, des Bleus contre la Jamaïque et contre la Suisse. Bon, la Jamaïque, c'était, on se rappelle, le premier match officiel en Coupe du Monde d'Hervé Renard l'année dernière. En principe, ça ne devrait pas être si compliqué. Et la Suisse, t'en penses quoi? Est-ce que c'est deux sélections à surveiller?
Je pense que c'est juste, ça va être deux occasions pour le coach à expérimenter un peu, parce que la Jamaïque, c'est une bonne équipe, il y a de bonnes joueuses, mais au final, ça reste un match un peu match amical, un friendly. Donc, il y a vraiment ce moyen de pouvoir changer un peu la donne, même si, par exemple, s'il finit par ne pas sélectionner Wendy Renard, je vais pas être choquée. Peut-être qu'il a juste envie de voir d'autres profils lors de ce rassemblement. Je ne sais jamais. Peut-être que ça va être vraiment ce rassemblement avec les joueuses habituelles, et peut-être qu'il va changer. On ne sait jamais. Mais ce qui est sûr, c'est que ces deux sélections ont un niveau. La Suisse, on connaît bien la Suisse avec Ramona Bachmann et les autres. Il y a Jamaïque qui sont bien. Mais ça reste des matchs amicaux, donc l'enjeu est beaucoup moins intéressant ou important.
Voilà, c'est ce qu'on va savoir dès jeudi prochain. Alors, Assil Toufali en duplex avec Lyon, merci beaucoup pour l'entretien. Et on se donne rendez-vous, évidemment, la semaine prochaine pour un autre diagnostic footballistique.
Merci.
On reste avec François Roberge, on va parler de politique internationale.
D'un autre sport, oui.
Oui, d'un autre sport.
On va conclure sur le dossier Michel Barnier. Donc, j'ai interrogé une ex-députée de l'Assemblée nationale, désormais élue à Toulon. Elle s'appelle Cécile Muscotti, pour connaître son opinion sur l'arrivée du fameux Michel Barnier. Et voici ce que ça donne.
Toujours à Radio Centre-Ville, le 102.3 FM, radiocentreville.com. On s'intéresse encore une fois au nouveau gouvernement Barnier. On aime bien récolter des opinions diverses. Et cet après-midi, on va surtout s'intéresser, disons, au côté peut-être plus pro Michel Barnier. C'est ce qu'on va vérifier. En compagnie de Cécile Muscotti, qui est conseillère municipale et conseillère métropolitaine de Toulon, dans le groupe Un vrai cap pour Toulon. Et pour information, ex-députée à l'Assemblée nationale du groupe Renaissance. Donc, bien intéressée d'entendre son opinion. Elle a accepté notre invitation et nous sommes en duplex avec Toulon. Cécile, rebonjour et re-bienvenue à Radio Centre-Ville.
Bonjour et merci beaucoup de votre invitation, surtout.
Ben, ça nous fait un grand plaisir. Alors, Cécile, question toute simple, s'il en est une. Est-ce que Michel Barnier, selon vous, est un bon premier ministre?
Bon ou mauvais, je ne sais pas, mais ce qui est certain, c'est qu'il n'arrive pas en tout cas à ce jour, à embarquer une majorité au sein de la majorité suffisante pour être porté, si vous voulez, par une vision un peu positive de ce qui pourrait arriver à la France. Et ça, ça reste quand même très problématique.
À l'origine, on dit que c'était plutôt Xavier Bertrand qui était le plan A d'Emmanuel Macron, mais tout le monde disait, bon, surtout Marine Le Pen, si c'est Bertrand, on le débarque. Michel Barnier semble être le choix, entre guillemets, le moins débarquable. Est-ce que c'est, selon vous, la raison qui a motivé Macron pour l'avoir choisi?
Le président Macron s'est retrouvé dans une grande difficulté suite à la dissolution de l'Assemblée parce qu'il devait essayer de construire une coalition, un point d'équilibre dans son gouvernement. Et aujourd'hui, il a fait un choix, c'est d'aller vers sa droite. Ça, c'est le premier élément. Puis le deuxième élément, c'est qu'il a fait un choix de discuter ouvertement et il a pleinement assumé sa décision avec le Rassemblement national, avec Marine Le Pen. Et ça, si vous voulez, ça a crispé nombreux élus parlementaires de la majorité et ce que j'entends pleinement. Vous savez, nous, les macronistes de la première heure, nous sommes des sociodémocrates. Et tendre autant vers la droite, ce n'est pas notre ADN, premièrement, et deuxièmement, ce n'est pas non plus le résultat des urnes des dernières élections.
Ben justement, j'ai pas envie de dire encore que ça pète de partout, mais je pense à, entre autres, Pascal Canfin, l'eurodéputé qui a quitté le bureau de Renaissance, qui reste Renaissance, mais qui a quand même un peu claqué la porte de la haute direction. Est-ce qu'il y a à craindre des démissions ou des colères? Parce que, bon, il y a quelques députés jusqu'à présent de Renaissance qui ont changé de camp ou du moins qui ont démontré leur insatisfaction. Est-ce que ça pourrait, disons, péter plus souvent qu'autrement?
Je pense que oui, surtout à l'instant où l'on se parle, c'est-à-dire que le budget a été présenté par le Premier ministre en Conseil des ministres et les premiers éléments ont été présentés aux commissaires aux finances, hein, les députés qui s'occupent des finances publiques. Et aujourd'hui, le compte n'y est pas dans cette présentation de budget. Et donc, ça va être l'exercice habituel français que de négocier pour présenter un projet de loi finance le plus possible équilibré devant l'ensemble des députés à l'Assemblée nationale. Et je pense qu'à ce moment-là, les crispations seront telles qu'elles risquent effectivement d'engendrer de nouvelles démissions au sein du groupe Renaissance.
Alors, dans ce gouvernement de 39 ministres, secrétaires d'État, il y en a quand même deux, j'imagine, vous en tant qu'élu municipal, qui vous interpelle le plus, Agnès Pannier-Runacher et Catherine Vautrin. Est-ce que, pour ce qui est de la première, Mme Pannier-Runacher, c'est un bon choix de la maintenir dans ce poste?
Vous savez, je suis très attachée aux questions environnementales et aujourd'hui, on a pendant des années proposé des solutions pour accélérer nos politiques environnementales. D'ailleurs, notamment une partiellement inspirée de l'exemple canadien, hein, parce que vous avez, vous, en tout cas de notre interprétation, une façon moins politisée de voir les questions de transition écologique. Mais ça n'a jamais beaucoup avancé, en tout cas pas assez vite. Et Agnès Pannier-Runacher, qui est une femme extrêmement sympathique, là n'est pas la question, ne me semble pas à la hauteur des enjeux, à la hauteur du défi climatique qui est devant nous. Donc, je suis dans l'attente, mais je vous avoue ne pas trop espérer, malheureusement.
Espérez-vous beaucoup en retour de Catherine Vautrin?
Alors, vous allez me dire que je suis pas très positive, mais je n'aspire pas grand-chose non plus. Une des erreurs massive du président Macron dès le départ, hein, a été de ne pas assez considérer les élus locaux, les maires, les adjoints aux maires, les conseillers municipaux et métropolitains qui font vraiment une politique du quotidien. Et avoir déconnecté de cette manière-là la politique locale est une grave erreur macroniste et qui malheureusement ne semble pas beaucoup être corrigée à ce jour.
Ben justement, dans cet esprit-là, auparavant, il y avait le ministre Christophe Béchu, ancien maire d'Angers, qui était finalement votre interlocuteur, vous, en tant qu'élu municipal. Quel bilan tirez-vous de son travail? Et autre question, est-ce que vous auriez souhaité qu'il se maintienne s'il avait pu être maintenu?
Je suis pas certaine que la continuité de Béchu aurait beaucoup changé les choses. Moi, je pense que tant que nous n'avons pas un président de la République et un gouvernement qui prend conscience qu'il faut une véritable rupture dans notre façon de faire vis-à-vis des questions environnementales, ça n'avancera pas. Vous pourrez mettre Pierre, Paul ou Jacques, hein, je ne sais pas si vous avez cette expression chez vous, mais c'est une vraie question de fond. Aujourd'hui, il faut donner les moyens aux territoires d'avancer, il faut les accompagner pour cela. Et ce n'est pas un super ministre de l'écologie qui peut tout seul décider des choses. Et ce sont vraiment, c'est mon point de vue, hein, à l'échelle des territoires que ces politiques de transition peuvent être accélérées. Bon, aujourd'hui, ce n'est toujours pas le cas. En tout cas, ce n'est pas l'angle choisi par le nouveau gouvernement. Et c'est bien triste.
Ben justement, ce nouveau gouvernement, selon vous, Cécile Muscotti, combien de temps va-t-il durer? Tout semble indiquer, enfin, beaucoup prédisent de nouvelles élections législatives au mois de juin. Croyez-vous qu'il y aura un Barnier 2 ou tout simplement plus de Barnier l'année prochaine?
Effectivement, tout le monde est dans l'attente et tout le monde se prépare à repartir au combat sur de futures élections législatives. Vous savez, aujourd'hui, c'est très compliqué d'anticiper les vagues politiques parce qu'elles vont trop vite et elles sont trop souvent semblables à des tsunamis. Maintenant, regardez, deux motions de censure présentées à l'Assemblée qui n'ont pas été votées. Donc ça veut dire qu'on a une représentation nationale qui, pour l'instant, ne met pas en difficulté le Premier ministre et son nouveau gouvernement. Donc tant que les parlementaires ne le mettent pas en difficulté, ça peut perdurer. Malheureusement, ce sont les Françaises et les Français qui perdent à ce jeu-là. Parce qu'une politique très austère, hein, quand on regarde aujourd'hui les présentations budgétaires, on est sur des économies massives et une augmentation des impôts réels. Je suis pas certaine que la France grandisse de tout ceci. Et je pense que les citoyens